Alpha sans oméga, article 7. Le personnage de Jésus est des plus étonnants et l'adhésion qu'il suscite n'est certainement pas étrangère à cette fascination que celui-ci exerce depuis plus de 2000 ans. La fascination étant par définition un principe recherché notamment par ceux désireux d'être adulés et qui vous accapare d'une façon telle que celle-là ne vous concède pas le temps de la réflexion. Lorsque Jésus devint le Christ et qu'il fut dit Fils de Dieu, par répercussion à de nombreux esprits, certaines questions à son propos passèrent à la trappe. D'ailleurs, la foi par excellence ne nécessite pas pour être adoptée en considérant que des deux, vous êtes celui décidant d'épouser l'autre, ce qui n'est pas évident au temps de preuves. Lorsque vous êtes convaincu de la sorte, en vous, un genre de réponse quasi absolue vous possède, au sens propre du terme, ne concédant plus la moindre place à quelques doutes éventuels. Dans le chapitre précédent, j'ai sous-entendu concernant Jésus qu'il émit cette solution, en l'occurrence fondamentale, nous appelant à nous aimer les uns les autres, et si cette parade ne trouva pas gain de cause entre nous, ce fut, du moins à mon analyse, que ce qu'elle nous proposa ne fut pas confronté à ce problème spécifique en capacité de la légitimer pleinement. Dit autrement, tant que cette difficulté de base ne fut pas mise en avant, toutes et tous estimèrent, et je ne m'exclus pas de cette majorité, que nous détenions de quoi nous tirer d'affaire personnellement sans nous montrer clément plus que nécessaire. Pour mieux admettre ce que je tente de décrire, il faut concevoir ce déficit d'ordre ontologique qui nous occupe comme un espace vous délivrant par ses dimensions de quoi vous abandonner une certaine liberté qu'il ne faut pas interpréter à la manière d'une autonomie, cette liberté-là ne cherchant qu'à être libre en usant pour ce faire de nos résolutions à vouloir la faire nôtre. Une fois que vous avez admis cette particularité, représentez-vous cette même liberté comme une forme de néant se nourrissant d'un acteur voué de façon involontaire à sa cause et exploitant ses agissements pour transformer ce qui est en ce qui ne saurait être. Bien sûr, on contestera mon approche disant que le néant, par définition, est un état dépourvu de tout, en commençant même par ne pas posséder en lui ce tout minimum-là et à la fois de départ. À cet endroit de ma réflexion, je vais m'autoriser une parenthèse pour expliquer ma démarche de façon générale, à savoir qu'en ce qui nous concerne, sans doute pour ressentir à notre égard une véritable affection, j'ai toujours préféré cibler pour tenter d'expliquer nos travers, de ces problèmes possibles, sachant nous décrire plutôt que d'accuser nos coupables de coutume, ne résolvant rien par leur désignation. Mais pour essayer de dégoter ces portes de sortie potentielles, il m'a fallu décrire ce qui pour de vrai nous causait souci, sans cette espèce de visualisation, les échappatoires imaginés au-delà de ne pas réussir à nous soulager en quoi que ce soit, risquaient fort d'aggraver plus encore notre cas. Ainsi, après des années de réflexion qu'il me sembla découvrir le pourquoi premier nous valant de déraper à ce point, celui-ci disant que nous n'étions ni mauvais intrinsèquement, ni pécheurs comme certains l'indiquent, juste handicapés sur un plan ontologique, moins réel, formulé autrement que ce que le réel est, et condamné sans être puni pour autant, pour être tributaire d'une faille d'ordre platement mécanique, à ne jamais aboutir de façon équilibrée. Cet état de fait nous conduisant, malmenés en permanence par cette impuissance, à nous retourner contre nous-mêmes.